Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci aux membres du comité de rédaction et aux organisateurs de m'avoir convié pour cette conclusion qui sera un petit peu brève parce que bon, les circulations des biens symboliques c'est bien, mais la circulation des personnes ça a aussi ses contraintes. Donc j'y suis soumis et je vous y soumets d'une certaine manière indirectement. Alors, je vais essayer d'être donc aussi rapide et synthétique que possible. J'ai pris toute une série de notes pendant toute cette journée et ce que j'ai pris le parti de faire, c'est de faire mienne la maxime bien connue d'Émile Durkheim dans la préface à la première édition de la Division du travail social. Hein, nos recherches ne méritent pas une heure de peine si je ne devais avoir qu'un intérêt spéculatif. Et je me suis demandé tout au long de la journée ce à quoi pouvaient bien servir finalement toutes ces recherches pour le fonctionnement d'une revue comme bien symbolique, puisqu'il s'agit en tant que produit intellectuel en soi d'un bien symbolique, hein, et la question étant celle de la traduction, transposition et de la circulation transnationale des biens symboliques, la question qui se pose, c'est comment bien symbolique peut devenir un symbolic good, c'est-à-dire un bien symbolique qui peut être doté d'une certaine valeur en dehors de son marché de production. Donc voilà, hein, comment bien symbolique et à quelles conditions finalement cette revue bien symbolique Symbolic Good peut être donc valorisée sur d'autres marchés que son marché de production d'origine. Alors j'ai noté toute une série de points qui sont liés à la fois à des atouts de potentiel de la revue et de sa thématique, mais aussi des questions, des obstacles, des défis. J'ai fait plus simple compte tenu du caractère nécessairement improvisé, c'est la définition même hein, d'une conclusion de ce type. Alors, j'indiquerai simplement, il me semble, un atout fort hein, de la revue qui est son domaine d'objet, dans la mesure où bien symbolique, symbolic good, hein, reflète, me semble-t-il, quelque chose qui n'est évidemment pas une spécificité française, mais qui est tout de même le produit d'une très forte tradition en France de sociologie de l'art, de la culture, des intellectuels. Alors, il ne s'agit pas d'être aveugle à l'existence de travaux tout aussi intéressants, ou en partie au moins aussi intéressants, dans d'autres contextes nationaux, mais je pense qu'on peut dire sans trop se tromper qu'il y a quand même une forme d'antériorité et d'importance à la fois qualitative et quantitative, forte, hein, des travaux sans chauvinisme particulier dans la tradition française. Alors qui, ça a été dit au début de la journée, ne s'exporte pas forcément toujours beaucoup, mais malgré tout, il y a des biais, des vecteurs de diffusion internationale de ces travaux, dont la diffusion internationale de l'œuvre de Pierre Bourdieu n'est pas le moindre. Et donc je pense que c'est aussi, même ceux qui font profession ici de casser du Bourdieu dans le cadre hexagonal, utilisent la référence bourdieusienne dès qu'il s'agit de se valoriser soi-même dans un autre contexte. Pourquoi pas, hein ? Donc les questions, il y en a beaucoup, je voudrais simplement en aborder deux ici très rapidement pour faire écho à la table ronde de ce matin. C'est la question de comment on définit l'espace de circulation, hein, et quel est l'espace de circulation pertinent. En l'occurrence, hein, ce qui a été vu ce matin, c'est que l'espace européen en tant que tel n'est pas forcément l'espace de référence immédiatement évident. Alors je me disais que finalement il y a quelques années, peut-être que aussi compte tenu du début du lancement d'un certain nombre de programmes européens valorisant la constitution d'un espace des sciences sociales européens pour faire référence à un réseau bien connu. Bon voilà, peut-être que le tropisme européen aurait été plus important qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein, finalement, j'ai l'impression que aussi, bon, compte tenu de ce qu'on sait du rapport de domination dans la production et la diffusion des sciences sociales, c'est-à-dire la place quand même éminemment centrale des États-Unis, hein, c'est plus. Il n'y a pas vraiment de référence strictement européenne à la revue, mais l'enjeu est de trouver un espace beaucoup plus large et donc mondial de diffusion pour des travaux. Alors, tous les travaux sur les formes de diffusion et l'importation et l'exportation des biens symboliques et des biens culturels rappellent par réalisme que l'une des conditions de cette circulation, c'est qu'il y ait des intérêts à l'importation et des intérêts à l'exportation. Alors, on sait quels peuvent être les intérêts à l'importation dans le cadre national d'un certain nombre de références qui permettent, le cas échéant, de venir contrer l'influence considérée comme hégémonique de tel ou tel courant d'analyse. Hein. Bon, jouer des auteurs américains contre des auteurs français, par exemple. Hein. Une série d'autres cas de figure. Les injonctions à l'internationalisation des carrières académiques font que les intérêts à l'exportation sont a priori évidents, puisque c'est une sorte de contrainte qui nous est imposée plus ou moins directement à tous. La question donc, qui se pose là, et la question évidemment à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est comment créer un intérêt des autres à l'importation de ce qu'on a envie d'exporter. Voilà, je laisse ouverte cette grande question, faute de pouvoir avoir le temps de le développer, même si j'ai quelques petites idées. Alors ensuite, quelques obstacles qui me semblent donc limiter hein, la possibilité de ces diffusions. Il y en a énormément, hein, mais je voudrais simplement en indiquer deux. Bon, il y en a un qui n'est pas du tout spécifique à l'objet de la revue, à son domaine, hein, c'est la difficulté d'intéresser des lecteurs d'autres contextes nationaux à des travaux qui sont souvent, dans la tradition sociologique française, assez circonstanciés, sur des terrains, avec un fondement empirique très important, etc., etc. Et donc, on sait qu'on passe notre temps à dire à nos étudiants de nos premiers cours de méthode en sciences sociales qu'il ne faut pas confondre le terrain empirique et l'objet sociologique. Néanmoins, on sait que dans la diffusion des travaux de sciences sociales, hein, les lecteurs, hein, et la question se pose particulièrement dans le cadre de possibilités d'exportation, les lecteurs vont penser, voilà, une étude de cas sur la France ou la Belgique, dans quelles conditions ça va intéresser un lecteur argentin ou d'Hong Kong. Donc voilà, ça c'est un véritable enjeu, un véritable obstacle qui peut être levé partiellement, précisément, de plusieurs manières sur lesquelles je reviendrai si j'ai le temps dans 30 secondes, qui peut être levé en particulier, précisément, en travaillant sur ce qui a été le thème de la journée aujourd'hui. C'est un des exemples. Hein. Donc des objets internationaux ou transnationaux ou des perspectives comparatives qui vont permettre de dénationaliser ou de désancrer les travaux de manière à en faciliter l'appropriation par des lecteurs, auteurs, pairs d'autres contextes nationaux. Je voudrais simplement ajouter un autre obstacle qui me semble important, et j'étais tout à fait sensible à ce que disait Venceslas ce matin dans l'introduction sur le choix de la mise en ligne et de ne pas passer par les éditeurs, puisque là, il y a un obstacle économique hein, qui tient aux stratégies des éditeurs hein, qui, en lieu et place de faciliter la diffusion des produits dont ils sont censés assurer, théoriquement la diffusion, avec donc des politiques plus ou moins agressives et de rétention liées au copyright, eh bien, empêche la diffusion. Bon. Si j'avais le temps, je développerais un exemple auquel je suis moi-même directement confronté, je l'indique simplement en deux mots. J'ai été sollicité par une revue polonaise qui souhaite publier des traductions de textes français. Donc là, d'opportunité de diffuser dans un autre contexte nos travaux. Ils assurent entièrement les coûts de traduction. C'est une revue universitaire polonaise dont le budget est seulement abondé par celui de l'université. Les universités polonaises ne sont pas notoirement connues comme étant celles qui sont les plus dotées. La plupart des revues françaises, donc dans lesquelles les articles avaient été préalablement publiés, ont accepté de céder gracieusement les droits, sauf une, les presses de Sciences Po, qui, non content d'occuper aujourd'hui une position quasiment hégémonique hein, dans l'édition des revues de sciences sociales françaises, non content de pomper de l'argent public pour traduire sans grand effet sur la diffusion réelle des textes qui ont été sélectionnés, on ne sait pas trop comment, dans leur revue, vont demander à une université polonaise de payer pour un article dans une revue que, à l'époque, je dirigeais gratuitement, un article que j'ai moi-même évalué et entièrement retravaillé. Donc voilà, je crois qu'on va quand même assez loin je profite de cette tribune pour faire passer mon petit agacement personnel, mais je crois que plus généralement, c'est un obstacle possible à la diffusion des travaux. Alors, dernier point, les défis qui sont donc, auxquels une revue comme Bien Symbolique est confrontée, me semble-t-il. Alors là aussi, bon, voilà, la dernière table ronde, traduire ou s'adapter, fait directement écho à un certain nombre de points qui, me semble-t-il, sont liés au fonctionnement même de la revue. C'est-à-dire que bon, j'ai été sensible à ce que disait cette fois Séverine, en disant que voilà, il ne s'agit pas simplement de traduire, mais il s'agit aussi d'écrire et d'éditer des articles d'une manière qui fasse que le contenu même des articles puisse être justement prêt pour la traduction et donc prêt pour la réappropriation. Je pense que c'est vraiment tout à fait ce qu'il faut faire. En même temps, ce serait intéressant de voir ce que ça produit sur les manières d'écrire. Parce qu'on sait qu'on n'écrit pas exactement de la même chose, la même chose selon le type de public potentiel auquel on s'adresse. Et donc, est-ce que finalement l'aboutissement de tout ça, c'est pas d'arriver finalement à deux versions, une première version écrite pour la revue et puis une version adaptée pour la destination de la traduction. En tout cas, je crois que bon, c'est encore une fois illusoire de penser que la simple traduction permet la diffusion. On le sait très bien, compte tenu des formats d'écriture, des styles de référence, etc. etc. Je terminerai, pour laisser le temps à mon alter ego conclusif, de faire sa propre conclusion, simplement sur un point, j'en avais d'autres, mais j'arrêterai là. Finalement, quand il s'agit d'une revue, je pensais à ce que disait Leïla Dakli tout à l'heure, en rappelant que finalement, avant la circulation des œuvres, c'était la circulation des auteurs qui comptait et qui constituait, bon voilà, aussi un espace de répertoire. Alors le problème, c'est qu'une revue, ça circule pas exactement comme un auteur, et donc là, et je terminerai sur ce point, c'est jusqu'à quel point une revue comme Bien Symbolique, Symbolic Good peut devenir quelque chose comme un auteur collectif, et jusqu'à quel point et dans quelle mesure on peut, pour ce faire, en quelque sorte, s'engager dans une forme de transformation de capitaux internationaux individuels en un capital international collectif qui serait incarné dans Bien Symbolique, Symbolic Good, comme auteur collectif.
Merci Vincent. Donc c'est à moi, il est facile pour moi de dire que je vais être beaucoup plus rapide parce que beaucoup de choses ont été dites. Je pense à la réception et à mon public. Et en plus, il est difficile de conclure la journée de lancement d'une aventure qui n'a rien d'aventureuse, qui commence. Donc j'espère que ça nous vaudra peut-être l'occasion d'être invité aux 10 ans de la revue. Et je vous conseille de faire une belle fête. D'autres revues ont su le faire, on s'en souvient. Donc on était sortis fort tard et on s'était bien amusé. Donc j'espère que ça nous vaudra d'être invité. Donc je m'excuse par ailleurs et je serai donc de ce point de vue-là beaucoup moins pertinent et moins précis que Vincent. J'ai été absent ce matin et je m'en excuse, j'étais retenu à Paris 8 et pour un conseil d'administration. Mais ça me permet de revenir sur quelques points et saluer la richesse du projet. Bien sûr, j'ai pas, et je le regrette beaucoup, vu la présentation initiale par porteurs du projet, les porteuses du projet, mais elle est enregistrée, je pourrais la regarder. Mais il y a une chose très importante qui se passe autour, comme l'a rappelé Vincent, d'un espace de référence qui est bien connu autour d'une sociologie de la culture, pour le dire vite, et d'une tradition française en tout cas très très précise. Il y a une richesse du projet avec une grande cohérence et une identité qu'on a vu tout au long de la journée, mais qu'on a vu aussi, j'ai eu le plaisir de découvrir le premier numéro et de lire quelques papiers déjà, une identité épistémologique théorique autour de l'empirie notamment, et qui apporte un certain nombre de points de dépassement, et notamment de points de dépassement disciplinaires, à partir d'une force des disciplines. Et ce qu'on peut apprécier aussi beaucoup du projet, c'est qu'il y a une ouverture, mais qui n'a rien de consensuel. Et qu'il y a quand même des pôles qui ne participent pas de cette aventure, de cette mise en scène, de cette nouvelle mise en scène d'une approche des liens symboliques au sens large. Donc, plaisir d'être ici aussi, parce que je dois le dire, et de conclure cette journée, parce que elle est rattachée à plusieurs lieux de production scientifique auxquels je participe par ailleurs, avec d'autres laboratoires amis, dont nos amis de Strasbourg et plusieurs autres, mais aussi du CRESPA, et j'ai eu le plaisir en tant que directeur du CRESPA, en tant que directeur de ce gros bateau qu'est le CRESPA, de voir le projet, en tout cas de loin et de façon très modeste, de soutenir le projet et de le voir émerger, et de voir de jeunes collègues, pas forcément jeunes dans la carrière, mais qui, en tout cas, ont beaucoup de dynamisme, etc. Et lancer ce projet, c'est un projet dont le comité de rédaction, vous l'avez vu, il n'y a que des rambées, comme on dit, il n'y a que des, si je ne me suis pas trompé, des MCF ou des chargés de recherche. Donc c'est une bonne chose, moi je trouve que c'est quelque chose qui reflète bien certaines transformations de nos pratiques, et qui au sein d'une UMR comme le CRESPA, mais je pense que c'est valable pour beaucoup d'autres, est un projet qui a une histoire aussi, parce que ce n'est pas le premier projet qui a été présenté au programme Émergence de la mairie de Paris, qu'il faut aussi saluer ce type d'initiative qui permet une certaine hétéronomie dans le fonctionnement d'appels à projets, mais qui donne des choses très intéressantes et où les SHS sont retenus également. Donc c'est pas le premier projet qui avait été présenté, puisqu'Isabelle Claire, dans le domaine du genre, avait présenté un programme Émergence qui n'avait pas été retenu, mais ça a lancé cette dynamique et qui ouvre des perspectives et a synthétisé un certain nombre de perspectives au sein du CRESPA, et qui a permis de visibiliser, de mettre en scène un axe culture, comme on l'appelle un peu vite, mais qui participe maintenant de la dynamique du laboratoire et qui participera de son projet. Il n'y a pas tant de satisfaction que ça que d'être directeur d'une UMR, et là c'est vraiment une satisfaction très très forte d'avoir pu voir ce projet et de l'avoir aidé, même très modestement. Et un autre point que je voulais évoquer, effectivement, ça rebondit sur, j'aurais aimé avoir aussi un énervement comme contre les prêts de Sciences Po, mais j'en ai aussi à Paris 8 sur la façon dont nos institutions financent effectivement, et d'où nous finançons la promotion ou la valorisation des productions culturelles. Nous avons une réflexion à l'Université de Paris 8 sur les dizaines de milliers d'euros que nous consacrons à ce qu'on appelle, mais ça existe partout, l'aide à la publication. Et il y a de grandes réticences des PUV, des presses universitaires de Vincennes, qui accueillent. Et c'est un des fleurons des PUV aujourd'hui, bien symbolique, il faut le dire, dans le catalogue des PUV, c'est très important, même s'il n'y a eu qu'un seul numéro, mais qui accueille ce type de production, et il y a une grande réticence à passer ça en numérique, pour le dire vite, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais il y a une dictature de la volonté d'être publié en papier, on en a encore parlé au conseil d'administration ce matin, et des sommes très importantes sont consacrées à une diffusion absolument nulle de ces productions-là. Alors, nos collègues mettent en avant l'Armatan, etc., mais vont publier dans des maisons d'édition qui n'existent pas, et qui ne financent rien, et qui n'accordent aucun intérêt à la production et aucune possibilité de circulation. Et donc peut-être de lire certains articles de biens symboliques leur permettra de comprendre que la production intellectuelle doit s'accompagner d'une véritable stratégie pour diffuser au-delà de micro-enjeux de départements familiaux, etc., la production. Qu'est-ce que je pourrais rajouter j'irai encore dans le sens de Vincent Dubois. Je participe des thématiques qui sont travaillées dans biens symboliques et qui ont été évoquées aujourd'hui, notamment la question de la circulation des biens, à partir de, notamment de travaux sur le livre et les foires du livre. Mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui qu'il y ait une relève, et une relève dynamique, et qui saura maintenir les enjeux collectifs de la production culturelle dans un espace où les carrières sont de plus en plus individuelles. C'est important qu'il y ait un lieu visible, francophone et international, qui puisse permettre d'avancer sur un certain nombre de questions, voire de les encadrer, voire d'empêcher certaines ritournelles permanentes autour de la circulation, des biens symboliques, de la sociologie de la culture, et peut-être aussi de l'héritage de Bourdieu. Et donc c'est bien qu'une visibilité soit mise, soit faite, et je ne doute pas que ça puisse réussir au-delà des cercles qui aujourd'hui le portent, sont larges, mais la dernière table ronde a montré que le dialogue avec des praticiens, avec d'autres disciplines, et parfois qu'on n'attendait pas, sur ces terrains-là, parce que je suis ignorant d'un certain nombre de questions, bien entendu, ça donnera une visibilité nouvelle à tous ces travaux. Donc, je conclurai là-dessus. Et j'ai aussi beaucoup apprécié, pour l'avoir regardé comme vous, la mise en page de la revue, le travail qui a été fait sur la... Enfin, je pense que vous y avez beaucoup réfléchi, et ça se voit. D'autres revues l'avaient fait, on s'en souvient, mais c'est important d'y penser. Et j'ai aussi beaucoup apprécié, je voulais le dire aussi, la façon dont les auteurs le travail des auteurs est plus mis en avant que leur biographie, leur parcours, des noms d'institutions, etc., même pour le comité de rédaction, le comité scientifique, etc. C'est très appréciable parce que ça dénote par des points un peu microscopiques, mais tout un enjeu que le collectif peut se substituer à une individualisation de nos carrières dont on souffre et que l'on subit au jour le jour. En tout cas, merci de m'avoir invité encore une fois, merci à l'équipe d'avoir lancé ce très très beau projet qui va nous emmener sur plusieurs années dans des choses très très intéressantes.